Nous allons aborder cet après-midi un sujet très pratique, mais très important pour tous les frères, et voir une des responsabilités importantes que chacun des frères a dans le foyer, tout spécialement. Et nous allons trouver cette vérité dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 22. Nous lisons ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, nous allons nous arrêter sur cette première partie. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alors, nous allons voir quelques pensées importantes pour chaque mari. Si vous n'êtes pas marié, un jour ça peut venir. Et c'est bien d'être averti à l'avance et de savoir comment se comporter lorsqu'on sera marié. Et ceci est très important. Je sais qu'on n'aborde pas toujours ces sujets-là, mais c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le tout d'être un bon chrétien à l'église si on est un mauvais chrétien à la maison ou un mauvais mari à la maison. Donc, le point important, d'ailleurs, dans l'Épître à Timothée, il est dit que celui qui veut être serviteur de Dieu, comment dirigera-t-il la maison de Dieu s'il ne sait pas diriger sa propre maison? Alors, ça montre bien par là que notre première responsabilité est dans le foyer. Et que si nous échouons là, par rapport à notre épouse et autres, alors on se demande si on réussira dans l'Église. Vous comprenez? Ça, on l'oublie parfois. Et souvent même, on pense que le ministère nous permet d'ignorer cela, on dit, moi je m'occupe du Seigneur, et puis on néglige sa femme. Ça, c'est une grave erreur. Le Seigneur veut qu'on s'occupe de l'Église, naturellement, mais en priorité, il faut que nous soyons fidèles par rapport à notre épouse, parce que là aussi, nous avons une responsabilité. Et si nous ne remplissons pas bien cette responsabilité par rapport à notre épouse, comment est-ce que nous pourrons bien le faire dans l'Église? Vous comprenez? Et je sais que ce n'est pas facile. Il y a des combats, on est tous les mêmes. Hein? Mais c'est un peu votre école biblique aussi. C'est là que Dieu nous forme et nous transforme. Et il ne faut pas abdiquer nos responsabilités dans ce domaine-là. Et dire, bon, ben, non, moi je m'occupe du Seigneur, je m'occupe de l'Église et je néglige cela. Non. Nous devons réaliser que la première responsabilité est là donc dans le foyer. Et cela ne veut pas dire qu'on doit être parfait, car nul n'est parfait, n'est-ce pas vrai? Si Dieu devait attendre qu'on soit parfait pour qu'il nous utilise, il n'utiliserait personne. Mais il y a un minimum de choses que nous devons faire pour pouvoir être une bénédiction au Seigneur et une bénédiction dans nos foyers. Alors, on va juste méditer un peu brièvement quand il est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et après, au verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié, enfin par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ainsi, comment le mari peut-il être le chef de sa femme? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'abord beaucoup d'incompréhension à ce sujet-là, parce qu'on a souvent un peu la compréhension humaine de ce qu'est un chef. Un chef, humainement, bon, c'est le commandant, c'est celui qui donne des ordres, c'est celui qui manifeste son autorité, mais c'est plus que l'autorité, c'est de l'autoritarisme, c'est presque de la dictature. Hein. Et combien de maris, malheureusement, même des serviteurs de Dieu, ça arrive avec leur femme quand il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tais-toi. T'as rien à dire. C'est comme ça qu'ils ont compris leur rôle de chef. Le chef, ben, c'est celui qui commande. Et finalement, est-ce que ça règle les problèmes, cela? Pas du tout. Au contraire, ça complique les choses. Et si vous ne faites pas attention à cela, vos rapports se détériorant avec votre épouse, vous-même, vous allez perdre votre flamme réelle avec le Seigneur et pour l'Église. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il faudra veiller, parce qu'autrement, on peut facilement paraître comme un hypocrite. Vous voyez? À la maison, avec notre femme, on a une attitude qui est comme cela, et à l'Église, on en a tout à fait une autre. Par exemple, on peut avoir une très bonne attitude avec les sœurs qui sont dans l'Église. Bonjour ma sœur, comment ça va? On est très gentils. Ça va bien? Oui, tout ça. Vous rentrez à la maison, votre femme est là. Alors, c'est prêt? La soupe est prête? Depuis quand? C'est pas possible! Chaque fois que je te parle, tu n'écoutes jamais! Regardez, il y a deux attitudes. Est-ce qu'il n'y a pas deux attitudes là? Et ça, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Hein? Avoir deux attitudes, c'est quoi? Un hypocrite, c'est un comédien. C'est celui qui porte un masque. Il a deux visages. Il a un visage à l'église qui est. Et à la maison, il a un autre visage, il porte un masque. Et cela, c'est notre tentation à tous. Et nous devons veiller à cela. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous attarder un peu là-dessus. Je sais que c'est des sujets, vous voyez, un peu qui nous dérangent. Mais il ne faut pas seulement écouter la Bible dans ce qu'elle nous arrange. Il faut aussi écouter la parole dans ce qu'elle nous dérange. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Parce que si on prêche seulement ce qui nous plaît, on ne prêche plus l'Évangile. On se prêche nous-mêmes. Ce n'est plus l'Évangile qu'on prêche. Quand on prêche ce qui nous arrange, ce n'est plus l'Évangile qu'on prêche. C'est nous-mêmes. Et ça devient dangereux. Alors il nous faut aussi avoir le courage de voir des sujets qui nous dérangent, mais c'est très important. Alors qu'est-ce qu'un chef? Alors, on a vu que ce n'était pas un dictateur ni un commandant, mais dans la pensée de Dieu, un chef, c'est d'abord qui est quelqu'un qui est soumis à ses supérieurs. Mais même humainement, un chef, un vrai chef, c'est quelqu'un qui est soumis à ses supérieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est logique. Quelqu'un qui n'est soumis à personne, c'est plus un chef, c'est un dictateur. C'est un tyran. Alors la soumission que le Seigneur nous demande en tant que mari, c'est la soumission au Seigneur. Voyez-vous, il est dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, c'est bien. On est content de ça. On a une certaine satisfaction. Mais ce n'est pas à sens unique. Nous aussi, on a notre soumission. Et si nous ne pensons qu'à la soumission de la femme au mari, sans penser que nous, on doit se soumettre à quelqu'un, alors voyez-vous, on n'est plus un chef là. C'est la mentalité d'un dictateur qui s'installe en nous. Et ça, tôt ou tard, ça s'écroulera, n'est-ce pas vrai? Tôt ou tard, ça engendre la rébellion. Tôt ou tard, la tension viendra. Parce qu'on ne reste pas longtemps sous le régime d'un dictateur. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça se voit dans le monde, dans les nations. Ça tient un temps, mais à un moment donné, ça craque. Donc le Seigneur veut qu'on ait cette bonne pensée concernant ce qu'est l'homme qui est un chef. Le mari est le chef de sa femme. Donc, quelles sont les qualités d'un chef? On va voir ça brièvement. J'ai plusieurs pensées ici. Un chef est premièrement et d'abord soumis à son supérieur. Alors nous, spirituellement parlant, si nous voulons être une bénédiction à nos épouses, il nous faut d'abord veiller à notre soumission au Seigneur, c'est-à-dire à notre vie spirituelle avec le Seigneur. Il faut que nous soyons vraiment dans la main du Seigneur, des hommes qui lui obéissent, qui sont soumis, qui qui sont entre ses mains pour faire sa volonté. Car si nous-mêmes nous sommes rebelles, comment voulez-vous que notre épouse nous obéisse? Est-ce que, vous voyez, c'est une contradiction. C'est notre soumission au Seigneur qui va engendrer aussi sa soumission à notre égard. Vous êtes d'accord avec moi? Quand elle verra que vous faites tout pour être soumis au Seigneur, marcher avec le Seigneur, plaire au Seigneur, votre épouse, voyant cela, elle cherchera à se soumettre parce que c'est son désir en elle de le faire. C'est inné cela. Mais si de votre côté il n'y a pas ce désir de chercher à être soumis au Seigneur, à veiller à votre vie spirituelle avec le Seigneur, tout le reste va en souffrir. Et elle-même, ça créera automatiquement des tensions. Alors, première vérité, le mari doit être soumis au Seigneur. C'est-à-dire que le mari doit être près du Seigneur. Et c'est dans la mesure où vous vivez près du Seigneur que vous vivrez près de votre femme. C'est important. S'il y a une distance entre vous et le Seigneur, il y aura toujours une distance entre vous et votre épouse. Vous comprenez? Votre communion avec votre épouse va dépendre de votre communion avec le Seigneur. Si la communion est bonne, moi je le vois, quand je suis bien avec le Seigneur et tout, en général avec ma femme, ça va. Chaque fois que ça n'a pas été bien avec mon épouse, si je suis droit et sincère, c'est parce qu'avec le Seigneur, ça n'allait pas tellement bien. Voyez-vous, d'où l'importance de veiller à cette communion sincère avec le Seigneur, à être bien. Autrement dit, un bon mari, c'est d'abord un bon chrétien. C'est tout simple. Ça, c'est une vérité extraordinaire. Un bon mari, c'est un bon chrétien. Si tu n'es pas un bon mari, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Ça nous dérange un peu. Mais c'est la vérité. Mais vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas quelque chose de... Si on vivait vraiment comme un bon chrétien, eh bien, on serait automatiquement un bon mari. Si on est un bon chrétien, il y a les fruits de l'esprit. Galates 5, 21, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, tout ça. Ce serait en nous, vous êtes d'accord avec moi? Ce serait en nous. Pas seulement à l'église, avec les autres dames, mais à la maison, premièrement. Donc, voyez-vous, si nous ne nous entendons pas bien avec notre épouse, il faut se demander si nous sommes vraiment un bon chrétien. Le problème en général dans les familles et dans les couples, souvent on cherche beaucoup d'explications. Voyez? Alors, comme je le dis ce matin, c'est la faute des uns, des autres, mon enfance, ma jeunesse, le papa, la maman, tout ça, ce sont des excuses. En général, les problèmes, à part quelques exceptions bien sûr, sont des problèmes d'ordre spirituel. Quand l'un et l'autre ne s'entendent pas, c'est que dans le domaine spirituel, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc un bon chrétien fera un bon mari. Mais un mauvais chrétien fera automatiquement un mauvais mari. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Enfin, si tu es un bon chrétien, tu seras automatiquement un bon mari. C'est ça. Et si tu es un mauvais chrétien, tu seras un mauvais mari. D'où l'importance, voilà, c'est là-dessus que je voudrais appuyer, que tout finalement dans le foyer dépend d'abord de vous. Ce n'est pas toujours donner des ordres et ceci et cela. Être soi-même déjà dans la main du Seigneur, près du Seigneur, soumis, être un bon chrétien. L'épouse voyant votre désir de plaire au Seigneur, de ressembler au Seigneur, de faire ce que le Seigneur veut, sera beaucoup plus indulgente et fera tout pour vous aider à être le mari que vous devez être. Mais il vous faut faire vos efforts pour être près du Seigneur. Amen. Et garder cette communion avec lui, sinon la communion avec votre épouse s'en fera ressentir. Ça, c'est très important. Très important. Alors, voyons une deuxième qualité. Qu'est-ce qu'un chef? Un vrai chef, c'est pas celui qui commande, enfin, il commande dans le mauvais sens du terme, hein, mais un vrai chef, c'est quelqu'un qui est d'abord un serviteur. Un vrai chef, c'est un serviteur, selon la parole. Dans, j'ai noté une référence, Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous voyez, le maître nous donne l'exemple là. Un vrai chef, c'est celui qui a un esprit de serviteur. Et pour beaucoup, comme ils se disent le chef, c'est l'épouse qui doit être là pour les servir. Ils n'ont que cette pensée-là, c'est l'épouse qui doit me servir. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Ah, mais moi, je suis un chef. Moi, je donne que des ordres. C'est mon rôle. Ah oui? Mais un vrai chef, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et ça, ça commence à la maison. Et c'est cela qui fait des miracles, mes amis. C'est cet esprit-là qui fait des miracles. Et là, on en a tous besoin, moi le premier, parce que notre cœur humain est toujours égoïste, orgueilleux, et on a de la peine à faire cela. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors cet esprit de serviteur se manifestera. Réalisons que vous êtes là pour servir votre épouse. Elle est là pour vous servir, d'accord? Mais elle vous servira mieux si vous, vous la servez aussi. C'est à double sens. Amen. Ça, c'est important. Alors, pour beaucoup d'hommes, il faudrait changer le fusil d'épaule. On est toujours là en train d'attendre que l'autre, l'épouse, nous serve. Mais dans le plan de Dieu, c'est d'abord toi qui dois commencer. Un vrai chef, c'est un esprit de serviteur. D'ailleurs, vous le voyez, des vrais chefs dans le monde, un bon contremaître et tout. Hein? Vous le voyez, il est toujours là pour vous aider à comprendre les choses, n'est-ce pas vrai? Et c'est celui-là, d'ailleurs, que vous respectez, vous êtes avec moi. C'est pas celui qui vient toujours, oh, non, c'est pas celui-là, celui-là, il peut dire ce qu'il veut, mais on ne le respecte pas. Mais le vrai chef, il prend du temps avec vous pour vous servir, hein? Vous expliquer les choses. Il est là, il ne montre pas, il ne vous écrase pas avec sa connaissance ou ses responsabilités. Il est là simplement pour vous servir. Une personne comme ça, automatiquement, vous la respectez, c'est pas vrai? Voilà. Alors, dans l'église et dans la famille, ça doit être ça, avec votre épouse. Si beaucoup d'entre vous, vous changiez déjà cette attitude, vous verriez des miracles qui s'opéreraient. Vous n'attendez plus rien, mais vous servez. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Servir. Voilà ce qui fait des miracles. Et une telle attitude, le Saint-Esprit l'utilisera. Parce que c'est l'attitude du Seigneur. C'est selon la parole. Et quand c'est selon la parole, le Saint-Esprit agit et touche le cœur de la personne. C'est quand nous agissons dans l'Esprit du Seigneur et dans l'Esprit de la parole que le Saint-Esprit peut agir et toucher les cœurs après. Amen. Oui, alors ça, c'est une vérité importante. Un chef, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître. Est-ce que vous êtes vraiment soumis au Seigneur? Est-ce que vraiment vous pouvez dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne? Ma vie est entre tes mains. Je suis à toi pour faire ta volonté. Et ensuite, un chef, c'est quelqu'un qui manifeste un esprit de serviteur. Me voici. Qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse? Comment l'aider, l'encourager dans tel ou tel domaine? Vous sentez qu'elle a besoin d'aide. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce qu'il y a cette sensibilité en vous? Vous savez, c'est dans les petites choses souvent qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas vrai? Et c'est dans, et l'épouse est très attachée aux petites choses. L'homme, en général, lui, il a toujours il a la vision des grandes choses. Mais avez-vous remarqué une épouse? Elle, c'est dans les petites choses. En général, les épouses sont des bonnes comptables, secrétaires. C'est pour ça. Parce que quand elles font quelque chose... Non, c'est pas comme ça. Oui, une épouse est très minutieuse. Très minutieuse. Non. Je ne veux pas dire que les hommes ne le sont pas. Mais en général, oui, elle s'attache aux petites choses. Mais le mari, lui, souvent, il pleure. Mais c'est bien, c'est une autre qualité, voir les choses en grand, dans l'ensemble et tout. Mais les petits détails, on n'en tient pas compte, comme si c'était rien. Non, c'est là l'erreur. si c'est important à votre épouse, un petit détail, ça doit être important à vos yeux aussi. Et c'est comme cela que vous arrivez le mieux à servir votre épouse, et en retour, elle vous servira aussi. Parce que c'est quelque chose qui touche profondément le cœur. Amen. Ce sont des vérités toutes simples que je vous dis là. Mais souvent, nous trébuchons là-dessus. Nous trébuchons. Nous négligeons. Ou nous passons par-dessus ces choses. Et c'est pourquoi nous avons bien souvent des tensions inutiles. Inutiles. Si nous mettions notre orgueil de côté pour dire « Maintenant, je prends le tablier du serviteur. Je veux servir mon épouse. Je veux être un bon serviteur. » Comme Jésus. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Qu'est-ce que je peux faire, ma petite femme, pour t'aider? Vous savez que dans tel ou tel domaine, ça lui fait plaisir, et ceci et cela. Commencez à le faire. Commencez. N'attendez pas qu'elle vous dise quelque chose. C'est à vous de voir. Vous vivez avec. Vous savez ce qui lui fait plaisir. Faites-le, n'attendez pas. Et c'est dans ces petites choses, vous verrez que des transformations profondes s'opèrent. Et il ne faut pas attendre que l'un agisse pour que l'autre agisse. Voyez-vous, il ne faut pas s'attendre. Des chrétiens et des couples qui sont toujours dans une salle d'attente, tous les deux attendent. Ils sont dans une salle d'attente. Qu'est-ce que tu attends? Ah ben, j'attends que l'autre fasse quelque chose. Et tu demandes à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Ah ben, j'attends aussi que l'autre fasse quelque chose. Alors les deux sont là en train de s'attendre. Ça peut durer longtemps. Le cœur de l'épouse. Il dirige par l'exemple. Une autre qualité. Une autre qualité, c'est que le chef est là pour favoriser le dialogue. Un vrai chef, c'est celui qui favorise le dialogue. Vous êtes d'accord avec moi? Il est là, il parle, il pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez fait? Ceci, cela. Vous voyez, un chef, c'est ça. Ce n'est pas celui qui se tait, là, et puis qui ne dit rien du tout. On ne sait jamais ce qu'il pense. Est-ce que vous ne voyez pas des maris qui sont comme ça? On ne sait jamais ce qu'ils pensent. C'est le reproche que beaucoup de femmes font à leur mari. Je ne sais jamais ce qu'ils pensent. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ce n'est pas étonnant que ça ne marche pas. Un chef, comment est-ce qu'il peut être chef? Comment peut-il diriger s'il ne parle pas? Ah, mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Mais il faut déjà le dire. Mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Mais il faut déjà le dire. Si tu ne le dis pas, on ne peut pas le savoir. Vous voyez, le chef favorise le dialogue. Et là, c'est un problème avec beaucoup de maris. Ils ne savent pas dialoguer ou ils dialoguent mal. Ou ils ne parlent pas du tout. Ou quand ils parlent, ils explosent. Alors là, et quand la femme voit ça, quand il explose, alors, oulala, tu dis quelque chose et qu'il explose, elle ne dit plus rien. Et le mari doit être là pour favoriser le dialogue. Ça, c'est un point important. Parce que le dialogue, c'est le cœur même du mariage. Le dialogue. C'est important. C'est terrible d'être dans un couple et que chacun soit de son côté, sans aucun dialogue. L'épouse a été donnée pour être l'aide de son mari, n'est-ce pas vrai? L'aide. Donc, Dieu veut vous aider par votre épouse aussi. Elle a une autre perception. Et elle a des talents qui complètent les vôtres. Et vous ne devez pas négliger cela. Mais des maris sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils n'écoutent jamais leur femme. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Elle n'a rien à m'apprendre. C'est une grave erreur. Elle peut t'apprendre beaucoup plus que tu ne le penses. Mais il faut l'écouter d'abord. Oh, moi, elle ne peut rien m'apprendre. Tu l'as écoutée d'abord. Chaque fois qu'elle part, tu as dit « Tais-toi ». Comment veux-tu l'écouter? Comment? Elle a des trésors. Elle a peut-être des trésors en elle que tu ne cultives pas. Tu l'arrêtes tout le temps pensant que tu sais tout. Et ça, c'est une erreur de beaucoup de maris. Le mari, le chef doit favoriser le dialogue. Ça, c'est important. Et dans un couple, quand il n'y a plus le dialogue, c'est la mort, c'est pas vrai? Ça, c'est la plus tristesse. Il n'y a rien de plus terrible que le manque de dialogue. On ne se parle plus. Ou on se parle mal. Je raconte souvent cette histoire sur le dialogue, justement. d'un jeune couple. Avant d'être mariés, lorsqu'ils étaient fiancés, c'était lui qui parlait et elle qui écoutait. Alors c'était le prince charmant, il était aux anges, il parlait, puis c'est elle qui écoutait. Après la lune de miel, les rôles se sont inversés. C'est elle qui parlait et lui qui écoutait. Oh, magnifique. Et lui, il écoute. Une fois mariés, donc, quelque temps après, les deux parlaient en même temps et c'était les voisins qui les entendaient. Les deux parlent, c'est les voisins qui écoutent. Le dialogue était où, là? Pas de dialogue du tout. C'était un dialogue de sourds. Voyez-vous, ils se parlaient, mais ils se parlaient mal. Pour parler, si tu veux parler, il faut d'abord écouter aussi. Souvent, on veut parler, mais on n'écoute pas ce que l'autre a dit. On parle sans écouter. Oui, et c'est dans ces petites choses-là que finalement, il y a des incompréhensions. Et combien de fois on le voit quand il y a des problèmes dans un couple et qu'ils vont voir le pasteur ou autre. Et après, le pasteur pose la question, mais tu lui as jamais dit ça? Mais si, mais si, je lui ai dit ça. Mais j'ai cru que c'était, je pensais que c'était autre chose. Mais je te l'avais dit tout le temps. Ah non, mais je pensais que c'est... Vous voyez, alors, l'un et l'autre ne se parlaient pas. Et ils ne savaient pas ce que l'autre pensait. Et ça, c'est tragique, vous êtes d'accord avec moi? C'est tragique que l'autre ne sache pas ce que le conjoint pense. Et c'est pour cela qu'il y a ainsi des tensions inutiles. Le chef favorise le dialogue. Et en général, quand il y a un bon dialogue dans le couple, eh bien là, il y a la paix, il y a l'harmonie. Mais il faut savoir écouter. Avant de parler, il faut d'abord savoir écouter. C'est pourquoi on a deux oreilles et qu'une bouche. Parce qu'il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Ah oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Oui, ça va, je t'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? En général, vous posez la question après. Qu'est-ce que tu as compris? Eh bien, ça. Et puis l'épouse dit, c'est exactement le contraire que j'ai dit. Vous comprenez? Attention, c'est très subtil. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter. On dit qu'on a compris, mais on n'a rien compris. Ou on n'a pas exactement compris ce que l'autre voulait dire. Parce que quelqu'un qui est compris, c'est quelqu'un qui se sent aimé. Ne l'oubliez pas, ça. Très important. C'est pourquoi les gens vont beaucoup chez le psychologue et tout. Parce que lui, il écoute au moins. Il écoute. Ça coûte cher, mais... Même s'il n'est pas d'accord, il écoute quand même. Parce que ça lui rapporte. Mais au moins, il écoute. Alors, si tu écoutais un peu plus, ça te coûterait moins cher aussi. Pour certains, donc, dans le monde. Oui. Est-ce que tu écoutes? Moi, je vois souvent... Quand il y a aussi une petite tension entre nous, c'est que je n'ai pas écouté et que je n'ai pas connu exactement le fond de sa pensée. On en reste aux paroles comme ça, oui. Mais le fond de la pensée, comme on ne l'a pas compris, et comme l'épouse a vu qu'on n'a pas compris et qu'on ne veut pas comprendre, alors voilà, il y a une tension qui est là, et ça peut durer des mois et des années. C'est tragique ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi on fait cela? On aime notre épouse, et on a une telle attitude. Souvent, c'est une question d'orgueil. Ainsi, mettons notre orgueil de côté et sachons écouter. Si nous voulons, avant de parler, il faut écouter. Écoute. Peut-être que tu n'as pas assez écouté ton épouse. Elle a besoin de parler. Elle a besoin de s'ouvrir. Écoute-la. Écoute. Et alors, après, tu comprendras. Et lorsque tu parleras d'une manière qui vraiment touchera son cœur et portera du fruit. Amen. Oui, ce sont des choses toutes simples. Le vrai chef délègue aussi des responsabilités. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui délègue des responsabilité, vous êtes d'accord avec moi? Un vrai chef, c'est ça. En tant que mari, vous devez aussi déléguer des responsabilités à votre épouse. Vous ne pouvez pas tout faire. Parce que dans certains domaines, elle est plus forte que vous. Il faut l'admettre là encore. C'est une question d'orgueil. On ne veut pas admettre qu'elle a plus de capacité dans tel ou tel domaine. Mais soyons humbles, acceptons. Ses talents ne sont pas là pour vous écraser, mais pour vous aider. Elle est là pour vous aider. Alors utilisez les talents que Dieu a mis à votre service finalement, au travers de votre épouse. Déléguez des responsabilités. Vous savez que dans tel ou tel domaine, elle est forte. Eh bien, allez-y. Elle se sentira utile. Un des plus grands problèmes dans les couples, c'est que l'épouse ne se sent pas utile. Juste faire à boire, à manger, et tout ça, voilà, c'est tout. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Elle ne se sent pas utile. Et pourtant, Dieu l'a donnée comme aide. Donc c'est justement pour guérir ce sentiment d'inutilité. Délègue des responsabilités. Tu vois que dans un domaine, elle fait bien. Sois humble, reconnais-le. Reconnais-le. Fais valoir aussi ce qu'elle a. Sois pas orgueilleux ou jaloux. Les maris qui sont jaloux des talents de leur femme. Mais t'as pas à être jaloux. Réjouis-toi. Ce qu'elle est, finalement, ça honore tout le couple, n'est-ce pas vrai? Ça honore. Mais tu vois un talent, tu vois quelque chose, note-le, encourage. Encourage-la. Si tu ne l'encourages pas, un jour, ce sera quelqu'un d'autre qui va l'encourager. Et qui va essayer de voir. Et qui lui dira les talents, les dons qu'elle a. Oh, ma sœur, vous avez un beau talent, là. Et c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. Elle se dit au moins en elle-même, au moins il y en a un qui apprécie le talent que j'ai. Au moins un. L'autre, il est à côté de moi depuis des années, il ne fait rien du tout. Il ne voit rien du tout, c'est un aveugle. Et c'est comme ça que les choses commencent. Ne l'oubliez pas. Des personnes qui s'aimaient et qui à un moment donné passent par ces brisements. Vous savez, c'est comme ça que ça commence. C'est parce qu'on n'écoute pas, on néglige, on n'encourage pas, on ne reconnaît pas. On est là complètement perdu dans l'autre monde. Ou dans les besoins de l'Église aussi, qu'on néglige complètement celle que Dieu nous a donnée. C'est une grave erreur, très grave erreur. La Bible dit bien, dans Éphésiens, il est dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant du bien à ta femme, tu te fais du bien à toi-même. Et si tu ne fais pas du bien à ta femme, tu ne fais pas du bien à toi-même. C'est ça la logique. C'est autrement dit, plus tu fais du bien à ta femme, plus tu reconnais ce qu'elle est, ce que Dieu lui a donné, plus ça te fait du bien à toi. Plus tu t'encourages, finalement en l'encourageant elle, tu t'encourages. Parce que ce qu'elle a, c'est pour toi. Et elle t'aidera encore plus après. Et tu l'aides aussi à se développer, à grandir aussi spirituellement. Le mari a une responsabilité. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit s'occuper de la croissance de ton épouse. C'est toi, le premier. Tu dois veiller à cela. Tu ne dois pas dire, oh, mais là, le pasteur s'occupe de ça. Hein. Moi, ce n'est pas mon problème. Pas du tout. C'est toi. Tu es le premier responsable. Amen. C'est des vérités toutes simples, mais importantes, mes amis. Reconnais les qualités de ta femme. Sois humble. Est-ce que tu lui as dit que dans tel ou tel domaine, elle a quelque chose d'incroyable, qu'elle a une bénédiction pour toi, pour tes enfants? Est-ce que tu le dis? C'est là, c'est dans ces choses-là souvent qu'on on néglige. On pense que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Et non. Elle en souffre. Et c'est comme ça qu'après, quand quelqu'un dit certaines choses, qu'elle tombe dans le panneau et que les grandes catastrophes arrivent. Amen. Un chef, c'est quoi encore? Un chef est le premier responsable. Quand quelque chose ne va pas, c'est le chef qui est le premier responsable. Vous êtes d'accord? C'est ça. Quand le patron vient et qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'atelier, par exemple,
Il ne va pas voir l'ouvrier, il va voir le chef. Et le chef ne va pas dire se débrouiller avec ce tout ouvrier. Non, c'est toi le chef. C'est toi le chef, tu es le premier responsable. Il a peut-être fait quelque chose qui n'était pas bien, mais premier responsable, c'est toi. Ah oui, mais c'est pas de ma faute. Non, c'est toi le premier responsable. C'est ça un vrai chef. Vous êtes d'accord? On ne peut pas comme ça se disculper et dire toujours c'est la faute de ma femme. C'est toujours la faute des autres. Ça, c'est pas un vrai chef. Elle peut avoir fait une faute, ça arrive, mais un chef reconnaît qu'il est le premier responsable. Et c'est-à-dire que même si ce n'est pas de sa faute, il veut tout faire pour... Il se sent responsable, vous voyez. Elle dit, bon, ben, d'accord, je sais que c'est de sa faute, mais je veux tout faire pour arranger la chose. Il ne dit pas, c'est ta faute, voilà où on en est maintenant. Voilà, où on en est. Est-ce que ça va régler le problème, ça? Ça ne règle rien. Au lieu de dire, bon, ben, chérie, tu t'es trompé là, d'accord, comme ça m'arrive aussi à moi, mais je suis le chef du foyer, ça veut dire que je suis le premier responsable devant Dieu. Alors on va prier maintenant. Tu as fait une erreur, demandons pardon au Seigneur, hein, et le Seigneur va nous aider. Et c'est là qu'on voit l'intervention du Seigneur. C'est là que le Seigneur aidera le mari, aidera la femme. Parce qu'il y a une reconnaissance de ses propres responsabilités. Mais le fait de dire, c'est ta faute, débrouille-toi maintenant. Ça ne règle rien. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas que débrouille-toi, maintenant, voilà, tu as voulu faire comme ça, et bien maintenant, débrouille-toi. Ça ne marche pas. Tu es le chef. Tu es le premier responsable. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide du Seigneur, n'est-ce pas vrai? En disant, Seigneur, aide-moi, fais quelque chose, je suis le responsable. Et c'est là qu'on voit les interventions, parce que Dieu ne nous abandonnera jamais dans ces cas-là. Il nous aidera. Il voit qu'on prend nos responsabilités. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe des miracles. Amen. Parce qu'on est dans l'obéissance et qu'on veut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on cesse de mettre toujours la faute sur l'autre. Un chef prend la décision finale en cas de conflit. Ça, c'est une vérité aussi importante. Votre épouse prend aussi des décisions, elle doit prendre des décisions avec lesquelles vous êtes bien sûr vous d'accord. Mais si à un moment donné... Il y a une décision à prendre, une décision importante. C'est vous qui devez avoir la décision finale. Ça, c'est aussi un point important. Et l'épouse est là pour donner son conseil, bien sûr. Il faut demander le conseil et tout. Mais si à un moment donné, il y a une divergence et tout, soit il faut attendre, mais soit si vous avez à prendre une décision, c'est toujours le mari qui doit prendre la décision final. Ça, c'est un point important. Mais il faut le faire, bien sûr, dans un esprit toujours de serviteur. Et si on prend une décision, même si on pense que c'est pas toujours la bonne, là encore, mais si vous êtes convaincu que c'est ce qu'il faut faire, il faut remettre ça entre les mains du Seigneur et demander à votre épouse de prier avec vous et de rechercher la face du Seigneur. Mais la décision finale, là, c'est vous qui devez la prendre avec l'aide du Seigneur. Et dans la mesure du possible, bien sûr, avec votre épouse, mais c'est seulement dans des cas particuliers où vous voyez que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc, c'est à vous de prendre des décisions qui s'imposent. Parfois, il faut être courageux dans les décisions. Il faut être courageux. Souvent, on ne prend pas les décisions. Et puis, c'est comme ça que les situations s'aggravent. Amen. Décisions dans tel ou tel domaine qui sont importantes. Et vous savez que c'est un point important. Et si on ne le fait pas, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Quand on laisse faire les choses qui déshonorent le Seigneur, là, il faut intervenir. Et le Seigneur, lui, prendra votre défense. Il y a des décisions courageuses à prendre quand il le faut. Amen.
Voilà. C'est là quelques points que je voulais donner. Bon, il y a une autre. Un chef dirige aussi en passant du temps avec vous. Là aussi, il y a un autre point important. Un vrai chef, c'est celui qui passe du temps avec ses subordonnés. Il dit voilà comme il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire. Et ça aide merveilleusement, n'est-ce pas vrai? Le fait de passer du temps avec. Et c'est le grand problème aujourd'hui, le mari qui ne passe pas assez de temps avec sa femme. Je sais qu'on est tous bien occupés, mais il faut faire le maximum pour passer plus de temps. Plus de temps. Un chef, c'est ça. Il passe du temps avec ses subordonnés. Et le mari doit veiller à cela. Parce que c'est quand on n'est plus ensemble que les incompréhensions viennent, n'est-ce pas vrai? Chacun vit dans son monde. Chacun a, organise sa vie d'après ce que chacun désire. Et il n'y a plus cette communion. C'est comme ça que finalement, ça se refroidit. On est là comme deux étrangers, l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est tragique, vous ne trouvez pas? Il passe du temps. Passons du temps. Et c'est alors qu'on connaîtra mieux son épouse. Et qu'on aimera mieux son épouse. Et que on aura la meilleure attitude. Et là, c'est le mari qui doit faire le maximum pour veiller à cela. Passe du temps avec ta femme. Passe plus de temps. Fais qu'elle s'exprime, qu'elle parle. Tout cela est extrêmement important. Le chef, un vrai chef, aime ses subordonnés. Il aime ses subordonnés. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et le mari doit dire son amour à sa femme, doit l'exprimer aussi, pratiquement, même dans les détails qu'il faut. Souvent, là aussi, on néglige de manifester notre amour. Vous voyez, quand dans les évangiles, à combien de reprises Jésus dit qu'il nous aime, n'est-ce pas vrai? Aimez-vous les uns les autres. Et il y a constamment, nous voyons cette confession de l'amour du Seigneur pour nous, n'est-ce pas vrai? C'est parce que nous en avons besoin. Et surtout l'épouse a besoin d'entendre que vous l'aimez. Ça, c'est en elle quelque chose qui est très profond. Et malheureusement, beaucoup de maris n'en font pas toujours ce qu'il faut faire dans ce domaine-là. Vous connaissez l'histoire, c'était de Hans, je crois, c'est une histoire que je raconte. J'avais lu une fois, je ne sais pas si c'était un gars, un Suédois ou autre. Il s'était marié, donc. Et puis, quand ils se sont mariés, il avait dit à sa femme qu'il l'aimait. Et, bon, au bout d'un certain temps, entre deux, ça n'allait plus du tout. C'était un paysan, je crois, un cultivateur. Et tous les jours, l'épouse faisait à manger, préparait son petit déjeuner et tout ça. Enfin, tous les jours, c'était comme ça quand il rentrait des champs le matin. Et un jour, il rentre des champs. Madame n'était pas là. Pas de petit déjeuner, rien du tout. Alors, il appelle sa femme. Hello, Maria, je ne sais pas comment elle appelle. Maria! Personne ne répond. Maria! Personne ne répond. Alors il commence à aller dans toute la maison. Maria, mais où es-tu? Personne. Finalement, il la trouve dans un coin de la chambre, recroquevillée dans un coin caché, et qui était là, elle était là comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hé, oh, mon petit déjeuner! Pourquoi t'as pas préparé mon petit déjeuner? Pourquoi? Elle ne répond pas du tout. Pourquoi tu n'as pas préparé mon petit déjeuner?
Alors pendant des années, tu m'as fait cela, et puis maintenant, pourquoi d'un seul coup, tu ne le fais plus ? Pourquoi ? Elle ne voulait rien dire.
Et à un moment donné, elle a dit, écoute Hans, tu m'as jamais dit que tu m'aimais.
Elle a dit, comment ça ?
Au mariage, qu'est-ce que je t'ai dit quand on s'est marié ?
Je t'ai dit ce jour-là que je t'aimais. Et que si quelque chose devait changer entre nous, je te le dirais. Si je t'ai rien dit, c'est que je t'aime toujours. Je t'ai rien dit, c'est que ça continue. Je t'aime toujours. Lui, il était satisfait avec ça, mais est-ce qu'elle était satisfaite ?
Non, non.
Lui, il pouvait le dire une fois et puis être tranquille, mais elle avait besoin de l'entendre. Même plusieurs fois par jour. En tout cas, une fois par jour. Tandis que là, lui, pendant des années, il n'y avait plus rien du tout. C'était le silence complet.
Et c'est là qu'on voit, vous voyez, le mari ne réalise pas que son épouse, l'épouse est un être très sensible, très sentimental. Et le mari doit connaître les besoins de sa femme. Un chef, il connaît les besoins de ses ouvriers, vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça un vrai chef ? C'est une autre qualité encore maintenant. Il connaît les besoins de ses ouvriers. Il sait tout de suite, ah là, il faut ça, avec lui c'est ça, avec l'autre c'est ça, avec lui c'est ça. Ah, moi, je le connais celui-là, lui c'est ça. Oui, c'est ça un vrai chef, vous êtes d'accord avec moi ? Et un vrai chef, un vrai mari, doit connaître aussi les besoins de sa femme. Tandis que beaucoup, là, beaucoup de maris, ils plaignent complètement. Ils ne se connaissent pas les besoins profonds de l'épouse. Et ce besoin, un des besoins profond, c'est justement ce sentiment d'être aimé et de le dire et de le manifester. C'est pourquoi vous avez remarqué à plusieurs reprises, il est dit « Marie, aimez vos femmes », ensuite « aimez ». À plusieurs reprises, il est dit cela. Plusieurs fois, parce qu'elle a besoin d'entendre cela. Est-ce que nous le faisons ? Faisons-le davantage. Moi, là aussi, je vous dis franchement, c'est pas toujours que je le fais pas régulièrement. Mais chaque fois que je le fais, elle est aux anges. On se dit, mais comment ça se fait ? Oui, un peu de choses. Mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on néglige ces choses. Mais quand on le fait, on peut réjouir son cœur. D'une manière ou d'une autre, vous manifestez votre amour. Vous savez que avec tel geste, elle réalise que c'est un geste d'amour de votre part. Mais faites-le, faisons-le davantage. C'est important. Sinon, nous avons un être qui souffre là, qui est à notre service pendant des années, des années. Elle a préparé le déjeuner de M. Hans. Et lui, il planait complètement. Il était dans ses carottes et dans ses choux, là-bas. Et puis un jour, il voit que sa femme n'est plus là. Heureusement qu'elle n'a pas été trop loin ce jour-là. Elle était dans un coin de la chambre, ça allait encore. Et il a eu... ça s'est bien passé encore pour lui. Mais il y en a qui, quand il rentre, il n'y a plus rien à la maison. Et ça, c'est la tragédie, n'est-ce pas ? Et pourtant... Qu'est-ce qu'elle demandait ? Mais tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Ah, mais je l'ai dit au mariage. Et après ça, s'il y avait un changement, je l'aurais dit. Oui. Est-ce que ça, c'est des raisons qui ne tiennent pas ? Voilà. Donc, ça c'est connais les besoins de ta femme. Un mari doit connaître les besoins de sa femme. Un chef, c'est cela. Est-ce que tu connais les besoins de ta femme ? Et est-ce que tu pourvois ses besoins ? Vous savez, j'ai remarqué, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour satisfaire sa femme. Elle peut être satisfaite avec peu, pourvu qu'on le manifeste, n'est-ce pas vrai ? Ce qu'elle ne veut pas, c'est cette négligence, et c'est cet oubli-là, comme si c'était personne, comme si elle était là, sans aucune valeur, sans aucun intérêt. Finalement, on la traite comme un objet. Et puis c'est tout. Ça, c'est la plus grosse, la plus grande des douleurs pour elle. Mettez-vous à sa place. Qu'elle se sent comme un objet qu'on utilise et ensuite qu'on met de côté. Ça, c'est tragique. C'est tragique. Et ça, c'est la tendance de l'homme. Il faut faire attention. Connais les besoins de ta femme et apporte, manifeste cet amour, cette tendresse dans les plus petites choses. Fais-le. Ne sois pas négligent.
Ah, tu dis, mais j'ai pas le temps. Eh ben, arrête ailleurs. Enlève un peu de ton programme pour prendre plus de temps avec ta femme. Ah, mais j'ai pas le temps. L'église. Fais d'abord. Si tu as trop de travail à l'église qui t'empêche d'aider ta femme, c'est que tu as trop à faire là-bas. Réorganise ton temps. Passe plus de temps. Et que le temps que tu passes soit un temps de qualité. Et quand tu l'auras fait, alors après à l'église, tu partiras même avec sa bénédiction. Ça, c'est merveilleux. Hâte à la réunion, voilà, que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est bien. Tandis que bien souvent, encore la réunion ? Alors, on ne te voit jamais ! Vous croyez que c'est un compliment, ça ? C'est pas un compliment, hein, je vous le dis. Quand ça se manifeste, c'est le feu rouge, hein. C'est le clignotant qu'elle a. Hein. Je vous le dis, c'est un clignotant qu'elle a. Jamais on te voit ! Toujours là ! Nous, ici, qu'est-ce que... On ne vit pas ici ! Non, c'est un clignotant. Un feu rouge. Mais au contraire, quand elle dit ça va, vas-y, que le Seigneur te bénisse. C'est parce que tu t'es occupé d'elle. Et maintenant, elle comprend les choses. Elle veut que le Seigneur t'utilise et fasse ce que le Seigneur te demande. Mais il faut que ce soit fait dans un bon esprit et comme le Seigneur le désire. Amen. Amen. Voilà, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Car le mari est le chef de la femme. Voilà, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire là-dessus. Mais ceci est important. Car de notre communion, comportement à la maison, dépendra notre vie dans l'Église, mes amis. Ça, c'est important aussi. Soyons près du Seigneur, personnellement, et nous serons plus près de notre épouse. Et c'est ainsi qu'il y aura le dialogue et la bénédiction du Seigneur dans ce que Dieu nous demande. Amen. Ne négligeons pas, ne négligez pas votre épouse. Connaissez-la et valorisez-la aussi. Faites ce que vous ne faites pas régulièrement, faites-le. Prenez du temps. Ne la négligez pas. Et vous verrez que finalement votre épouse vous donnera ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez peu, elle vous donnera peu. C'est comme une éponge. Si vous lui donnez peu, elle vous donnera peu. Si vous lui donnez beaucoup, elle vous rendra beaucoup. Elle est là. C'est comme un... Oui. Vous recevrez d'elle ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez rien, qu'est-ce que vous allez recevoir ? Rien du tout. Ça, c'est important. Et le mari aussi, une autre qualité, un chef, doit favoriser à ce que son épouse se développe aussi spirituellement. Ça aussi, c'est important. C'est le rôle aussi du mari, du chef. Un chef fait tout pour que l'ouvrier devienne un jour un chef, peut-être. Hein? C'est normal. C'est normal. L'ouvrier ne va pas toujours rester ouvrier, tout le temps rester ouvrier. Un jour, il sera chef. Et un vrai chef est là pour aider cet ouvrier à devenir un chef. Donc le mari aussi doit tout faire pour que sa femme se développe spirituellement aussi. Est-ce que vous pensez à ce que votre épouse aussi ait du temps avec le Seigneur, qu'elle se développe spirituellement, qu'elle ait quelque chose à faire pour le Seigneur, qu'elle se sente utile? Ça, c'est important, tout ça. Oui, sinon, elle se sent inutile. Et c'est pour ça que beaucoup d'épouses sont tristes, parce qu'elles sont là, oui, désœuvrées complètement. C'est important. Et le mari est là pour, justement, favoriser la vie spirituelle de son épouse. Vous avez votre responsabilité. Donnez-lui du temps pour cela. Et si elle est une bonne chrétienne, elle sera aussi une bonne épouse. Amen. On en revient au point de départ. Si le mari est un bon chrétien, il sera un bon mari. Si l'épouse est une bonne chrétienne, elle sera une bonne épouse. Voilà. C'est réciproque. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Prions le Seigneur. Peut-être que nous pouvons avoir un tout petit moment de prière, simplement devant le Seigneur. Et prier des courtes prières, selon que le Seigneur vous a parlé. Que ce soit un moment aussi où nous nous reconsacrons dans ce domaine précis, en disant au Seigneur, Seigneur, je veux changer dans tel ou tel domaine. Tu m'as parlé, je ne serai plus le même. Ma femme verra un mari différent dès la sortie même de cette réunion. Ma femme verra un nouveau mari. Ce soir ou demain ou les jours qui viennent, quelque chose va changer en moi. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi à être de meilleurs chrétiens, à vivre avec toi, Seigneur, à être bien avec toi dans notre vie chrétienne. Et c'est alors que nous serons de meilleurs maris. Pardonne-nous et purifie-nous, Seigneur, de tout orgueil, de toute désobéissance, de toute dureté aussi. Combien nous sommes durs, combien j'ai été dur aussi, et parfois je le suis encore, Seigneur, pardonne-moi. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé, ton esprit doux et humble, Seigneur. J'en ai besoin, moi le premier, Seigneur. Et bénis mes frères ici, afin que, Seigneur, ils deviennent de meilleurs maris et que tu puisses ainsi les utiliser dans leur couple et qu'ils soient richement bénis ensemble. Merci, Seigneur. Nous voici, façonne-nous et transforme-nous à ton image. Amen. Amen.